Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, Lucie Bertille Bourdon, Amélie Perrot et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Deuxième temps de notre série consacrée au nouveau visage de la guerre. Après avoir parlé de l'armée française hier et de ses défis futurs, avant d'évoquer demain le cyberespace comme futur champ de bataille, et nous interroger jeudi sur l'importance de la libération des combattants pour obtenir la paix, intéressons-nous ce matin à un acteur clé des conflits par procuration, les sociétés militaires privées. De Tripoli à Stepanakert, le retour des mercenaires.
La vie internationale a changé, nous voyons l'importation de mercenaires étrangers, le recours aux sociétés militaires privées, l'instrumentalisation des flux de réfugiés, les manipulations de l'information qui font office de nouvelles stratégies d'influence. Nous voyons la déstabilisation devenir un instrument de puissance à part entière. Et en Ukraine, en Syrie, en Libye, comme aujourd'hui au Karabakh, nous voyons ces dynamiques délétères internationalisées et envenimées des crises aux racines locales.
Jean-Yves Le Drian, au Forum Globsec de Bratislava, c'était le 8 octobre dernier, Jean-Yves Le Drian qui évoquait donc le retour en force des mercenaires. Mercenaires syriens déployés dans le Haut-Karabakh par la Turquie, soudanais envoyés en Libye ou au Yémen par les Émirats Arabes Unis, paramilitaires russes en Ukraine ou en Centrafrique. L'internationalisation des conflits semble avoir pris ces dernières années une nouvelle dimension. Non seulement on ne se fait plus la guerre sur son propre territoire, mais on n'y envoie plus non plus sa propre armée. Pour autant, si les terrains et les belligérants changent, le principe est ancien du mercenaire français Bob Denard, impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique de la période des indépendances au milieu des années 90, à la désormais célèbre, bien que mystérieuse, société militaire russe Wagner, en passant par l'américaine Blackwater, pointé du doigt à la fin des années 2000 pour ses exactions en Irak. L'objectif est toujours le même, faire à des groupes privés ce que l'on ne peut pas demander aux armées nationales. Alors, y a-t-il quelque chose de vraiment nouveau dans ce phénomène des combattants employés par des entreprises privées pour aller se battre sur des théâtres extérieurs, de la Libye au Haut-Karabakh? À quoi ressemble cette nouvelle génération de mercenaires? Quelles sont les sociétés privées qui les recrutent? Quels liens aussi entretiennent-elles avec les États? Et d'ailleurs, pourquoi ces derniers préfèrent-ils recourir à leurs services plutôt qu'aux armées régulières? S'agit-il de réduire les coûts économiques de la guerre ou d'éviter d'en payer le prix moral et politique auprès de son opinion publique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jalel Archaoui. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous, Jalel Archaoui. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales des Pays-Bas. Vous connaissez particulièrement bien la situation libyenne où on est là sur, j'allais dire, le théâtre. Vraiment où se faire la guerre des pays par procuration, par le truchement justement de ces mercenaires. Avec nous également Pierre Gatineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef d'Intelligence Online, qui est un site d'information sur les services de renseignement. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, Conversation secrète, le monde des espions, qui est une coédition Fayard France Culture, qui est en fait la déclinaison livresque d'une excellente série qui s'est faite en deux saisons, l'été 2020 et l'été 2019. Pour les éditeurs qui seraient passés à côté, vraiment, j'invite à l'écouter. Elle est vraiment excellente. Je vais commencer avec vous, Pierre Gatineau. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, il y a eu vraiment une augmentation très significative du recours à des mercenaires, où finalement, le Haut-Karabakh que j'évoquais, la Libye, sont des cas trop particuliers pour en déduire une règle générale?
Très bonne question. Non, globalement, je pense qu'effectivement, on assiste à une massification d'un phénomène qui a effectivement commencé d'abord au début des années 2000 avec l'intervention américaine en Irak, clairement. Qui a donné, donc vous en parliez, Blackwater, Aegis, plusieurs sociétés comme ça, mais qui intervenaient à l'époque dans le cadre de soutien à des opérations légalisées et qui, enfin, c'est un phénomène qui petit à petit effectivement a été employé par de plus en plus d'acteurs, notamment des puissances moyennes en quête de profondeur stratégique et en quête de qui avaient des agendas régionaux plus marqués comme la Russie ou la Turquie aujourd'hui. Effectivement, c'est devenu l'apanage de toute puissance moyenne qui veut projeter sa puissance sans en payer, on va dire, le coût politique internationalement.
Jalal Arshaoui, il y a donc effectivement une montée en puissance de ces mercenaires. Est-ce que pour vous, c'est au fond le fruit d'une dégradation de l'ordre international ? Ou c'est plus prosaïquement, au fond, le résultat d'une logique libérale qui a naturellement gagné le secteur de la guerre ?
Non, je pense qu'il faut d'abord penser effectivement à cette espèce d'apathie américaine, parce que ce sont quand même des zones de la planète qui profitaient du parapluie sécuritaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les dernières années ont finalement exposé toutes ces nations qui étaient là pendant tout ce temps-là à une espèce de marge de manœuvre qu'ils utilisent du mieux qu'ils peuvent. Il y a un retour d'un cynisme qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Vous avez utilisé le mot retour, et je pense que c'est le bon mot, parce que rien de tout cela n'est complètement nouveau. Mais c'est vrai que ça fait une génération qu'on l'a pas vu, par quelques exceptions qui ont évidemment existé ici et là. Donc, c'est directement lié à un retour d'un certain désordre international, même au niveau de l'Europe, finalement, et pas simplement l'Afrique du Nord ou.
Et avec, je pense en France, une difficulté aussi à le comprendre, parce que pour nous, la guerre, c'est l'État. Typiquement pour des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, c'est la tradition guerrière est pas du tout la même. Au Royaume-Uni, on va très vite vous citer la Compagnie des Indes Orientales comme un exemple historique et comme une, en fait, de la situation actuelle comme une continuité logique de ce qui a pu se passer au moment de la guerre de course, en fait. Avec des opérateurs privés qui avaient des lettres de mandat ou autres étatiques et qui venaient opérer dans d'autres régions du monde.
Alors que nous, on va penser à Bob Denard et un peu de la barbouzerie d'une certaine manière.
Exactement, et avec d'un côté, genre, pour nous, le régalien, c'est forcément l'État.
Ouais. Jalal Arshaoui, essayons justement du coup de mesurer un peu ce phénomène. Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent ces dernières semaines, ces derniers mois, sur la présence de combattants syriens, notamment déployés du Haut-Karabakh. On avait par exemple un très bon témoignage dans Le Point d'un jeune homme qui s'appelle Ibrahim, qui est originaire d'Idlib, qu'on est allé chercher en Syrie, qui est parti se battre dans la ville d'Oradis, qui est donc dans le Haut-Karabakh. Et avant d'aller se battre dans le Haut-Karabakh, lui, il était en Libye. Donc, il a fait vraiment les deux terrains. Est-ce qu'on a une toute petite idée de ce que représentent ces mercenaires ? Il y a cet exemple, Ibrahim, mais est-ce qu'on peut mesurer, les compter, tout simplement, ces mercenaires, soit dans le Haut-Karabakh, soit dans la Libye ? On a une idée ?
Oui, en Libye, leur nombre a atteint presque 8000. Hein, si on revient au printemps, c'est un peu le paroxysme de cette mobilisation. On est arrivé à 7500 ou 8000 dans la zone de Tripoli. Et puis après, ce qu'ils étaient venus faire, finalement, a réussi. Le maréchal Haftar a été expulsé de la Tripolitaine, et à partir de là, le nombre diminuait de toute façon.
Pardon, vous faites une corrélation directe entre leur présence et la capacité du gouvernement de Tripoli, de Fayez al-Sarraj, à repousser l'offensive du maréchal Haftar ?
Non, c'est plus compliqué que ça. D'accord. En fait, ils n'ont pas été si vitaux que ça. Ils auraient pu même ne pas être envoyés du tout. C'est plus quelque chose d'utilitaire sur le plan politique pour Erdogan, le fait de les avoir envoyés, parce que son profil n'était pas très reluisant au niveau de ce qu'il avait promis pour cette zone d'Idleb, qui était de plus en plus prise en étau par Assad et la Russie.
Mais pas décisif sur le plan militaire.
Les Libyens ne les ont jamais demandé, par exemple. Il n'y avait pas du tout une pénurie de combattants du côté du gouvernement de Tripoli. Mais toujours est-il qu'ils étaient allés là pour ce qu'on appelle un tour, une espèce de déploiement de 6 mois. Et au bout des 6 mois, la mission avait été accomplie de toute façon et ils ont commencé à retourner. Il y a là aujourd'hui encore 3500, grosso modo, dans la zone de Tripoli. Ils existent encore, ils sont dans des camps. Ils ne sont pas mélangés du tout avec les Libyens. Les Libyens, d'ailleurs, sont très antipathiques par rapport à cette notion d'avoir des combattants étrangers encore. Et d'ailleurs, comme je le disais, les Libyens les ont toujours vus... Je parle des Libyens du même côté. Ils les ont toujours vus d'un mauvais œil.
Et est-ce qu'il pourrait partir finalement, Jalal Arshaoui, parce que la semaine dernière, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé du côté de Genève par les délégations des deux camps rivaux, délégations militaires des deux camps rivaux, et cet accord prévoit précisément le départ des combattants, des formateurs étrangers, et on sait combien c'est important, on décrit depuis des mois, pour pas dire des années, ce phénomène d'internationalisation du conflit libyen qui a alimenté tout cela et qui empêche de sortir de la guerre. Est-ce que là, ça y est, c'est fini? Avec ce départ des combattants étrangers, on va enfin pouvoir prendre le chemin de la paix?
Non. Je peux vous dire qu'avec un certain confort, une certaine certitude, qu'aucun aucun de ces contingents étrangers ne va quitter la Libye, ni du côté d'Erdogan, ni du côté de Poutine et des Émiratis. Tout ce beau monde va rester. Hein. Il y a pas de. Je ne sais pas pourquoi l'ONU s'est amusé à inclure ce genre de stipulation dans cette annonce du cessez-le-feu de la semaine dernière, mais ils ne partiront pas. Toujours est-il que les Syriens du côté de la Turquie ont été quand même diminués par deux en termes de nombre. On est passé de 5500. Et puis les 2000 Syriens du côté d'Haftar vont rester et ainsi de suite.
Et avec la spécificité que le contingent syrien en Libye est amené dans le cadre d'un déploiement turc officiel, c'est-à-dire que c'est un accord avec le gouvernement d'Union nationale et la Turquie, et donc ils ont un rôle de supplétif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rôle de chevaux légers sous faux drapeau ou autre, c'est-à-dire qu'ils interviennent dans le cadre où il y a des forces spéciales turques, il y a des stations sol de renseignement pour opérer des drones et autres, et eux viennent en plus. C'est-à-dire que c'est pas la seule présence turque qui existe, qui passerait par des Syriens pour se cacher d'être turc. C'est qu'il y a vraiment un déploiement officiel turc, et en plus des supplétifs syriens.
Oui, mais si on regarde du côté du Haut-Karabakh, c'est pas officiel. Il n'empêche qu'en réalité, ça fait partie des capacités de projection d'Ankara. Quand on se rend compte que circulaient sur les réseaux sociaux des photos de combattants syriens qui, avant même l'offensive du 27 septembre dans le Haut-Karabakh, se retrouvaient dans des avions conduits justement sur site, on comprend qu'en fait, tout cela est parfaitement planifié par Ankara. Ça fait partie de ses capacités de projection.
Complètement. Ça fait partie de l'apanage de la puissance moyenne qui va avoir un impact régional et pour un minimum d'impact intérieur. Précisément, c'est pas les soldats qui sont envoyés. Ouais. Donc c'est pouvoir avoir une mobilité comme ça... Qui joue un peu partout, mais c'est à chaque fois, typiquement, Ankara va jouer d'abord avec des accords intergouvernementaux. C'est-à-dire que c'est pas un déploiement beaucoup plus couvert, on va dire, mauvais anglicisme, mais clandestin, comme peuvent le faire d'autres pays comme la Russie ou autres. C'est vraiment d'abord dans le cadre d'un accord intergouvernemental qu'ensuite des supplétifs étrangers interviennent.
Jalal Arshaoui, deux questions. La première, depuis quand Ankara utilise ses mercenaires, et question volontairement naïve, pourquoi le fait-elle ?
Elle le fait parce que la situation politique d'Erdogan est quand même beaucoup moins confortable qu'il y a 5 ou 6 ans.
Oui, mais elle pourrait envoyer ses soldats, elle manque pas de soldats, la Turquie.
Elle ne veut pas se permettre de voir des centaines de cercueils turcs revenir vers la nation. Il y a aussi le fait de donner une cause à ces combattants qui sont complètement désœuvrés. Ce sont des générations qui ont, même pour beaucoup d'eux, ils n'ont jamais combattu Assad, ils ont toujours été du mauvais côté. Ils ont commencé à être employés par la Turquie pour cette fonction de patrouille au niveau du nord de la Syrie, la partie turque. Et puis, la Libye a été un moment important dans le sens où ils ont été vraiment déployés, payés pour la première fois, formalisés sous forme de mercenaires, etc. C'était assez nouveau. Et c'est pour ça que vous avez bien noté l'aisance avec laquelle la Turquie l'a fait. En Azerbaïdjan, c'est parce que justement ça avait si bien marché finalement d'un point de vue technique en Libye.
Et est-ce qu'on les utilise d'une façon particulière ? Quand on regarde les chiffres des morts, alors j'ai regardé l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui nous donne un nombre de mercenaires syriens tués dans le Haut-Karabakh, je ne parle pas de la Libye, dans le Haut-Karabakh assez élevé. On était au 15 octobre, donc un peu plus de 15 jours après le début de l'offensive, à 125 morts. Et c'était un taux, nous disait l'Observatoire syrien des droits de l'homme, deux fois plus élevé que ce qu'on avait du côté de la Libye. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont été utilisés comme de la véritable chair à canon, beaucoup plus encore que du côté de la Libye, Jalal Arshaoui, et puis ensuite je vous donne la parole.
Même en Libye, ils étaient déjà... Parce que la Libye est quand même beaucoup moins meurtrière en tant que théâtre par rapport aux autres pays comme le Yémen, la Syrie, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'ils ont été utilisés comme de la chair à canon dans certaines situations, surtout les Arabes, et non pas les Turkmènes. Les Turkmènes sont considérés comme quasiment des Turcs, des citoyens turcs. Donc on fait attention de ne pas les mettre dans des situations dangereuses. Et cette différence de traitement est assez intéressante du point de vue des Turcs.
Pierre Gatineau.
Oui, donc complètement d'accord sur le côté première ligne, c'est-à-dire que c'est vraiment la chair à canon. Et vous avez soulevé effectivement un vrai sujet, je pense, qui est quoi faire de ces hommes. C'est-à-dire qu'ils ont en gros une troupe entre 5 et 10 000 hommes qui peut pas être débandée comme ça du jour au lendemain, qui est armée, qui a des capacités. Donc vous l'avez sous la main, vous êtes un peu bloqué avec, et en même temps vous avez un agenda régional qu'effectivement, si vous envoyez votre contingent national, devient un sujet de politique intérieure. Donc va beaucoup plus cliver là, à un moment où il a clairement besoin de soutien politique interne. Donc autant les utiliser au maximum, autant que faire se peut. Si effectivement demain les Balkans ça repart, ils les enverront dans les Balkans.
Ou l'Irak,
voilà, au hasard, mais vraiment au hasard.
Pour qu'on soit très clair pour les auditeurs, ces combattants, ils sont payés par qui? Qui est-ce qui vient les recruter? Comment ça se passe?
Il y a de multiples formes, mais typiquement celle qu'on connaît bien, la Légion Mourad, enfin, qui est vraiment constituée, notamment dirigée par des Turkmènes, c'est un truc très pyramidal en fait. Finalement, traité directement par le service de sécurité turc qui vient les recruter. Ils ont une solde.
On passe pas par une société privée.
Non.
Il y a une partie qui est sous-traitée, mais c'est vrai que cette société privée qui s'appelle Sadat n'est pas très importante.
Non. Vous avez raison. On peut en parler de Sadat, mais elle n'est pas du tout dans le même continuum, en fait. Elle intervient pas du tout sur le même spectre des opérations. Sadat, c'est donc la tentative de Blackwater d'Erdogan, dirigée par un ancien des forces spéciales qui était du parti d'Erdogan, donc assez islamiste compatible, et qui effectivement a commencé à se déployer en Somalie, qui s'est déployé en Libye, mais à chaque fois beaucoup plus dans des contrats de mentoring, des contrats de soutien aux forces locales, à les faire monter en compétences, qui est un peu la logique inverse des légions syriennes, qui est beaucoup plus justement des envoyés au front et advienne que pourra. Donc Sadat est un peu à côté. Après le reste, typiquement la Légion Mourad ou autre, il n'y a pas encore eu, à ma connaissance, et on le monitore bien, il n'y a pas encore eu de formalisation privée de l'organisation. Mais à mesure qu'effectivement les besoins se feront moins sentir sur les théâtres d'opérations extérieures, peut-être qu'on va voir une société militaire privée turkmène. Mais encore aujourd'hui, c'est vraiment traité par les services étatiques, par les forces spéciales turques, par le MIT, donc le service de renseignement et de sécurité du pays. Comment dire, c'est vraiment un pion à la fois très bien ordonné, très pyramidal, mais qui est envoyable effectivement à disposition, et donc ils sont payés par un salaire, et en fonction des tours, comme on disait, des théâtres d'opération sur lesquels ils vont, ils ont des primes. La prime du Haut-Karabakh de mémoire est un peu plus élevée que celle en Libye, mais on est sur du 800 000 $, enfin 800/1 000 $ mensuels de base, et après effectivement ça monte en fonction du risque, en fonction des blessures prises et du grade.
Jalal Chaoui, peut-être un mot encore, et puis ensuite on va ouvrir, parce qu'il y a malheureusement pas seulement la Turquie qui utilise les mercenaires, il y a bien d'autres pays. On va parler dans un instant des Émirats Arabes Unis, mais sur la question de la religion, Pierre Gatineau nous disait que l'homme qui est à la tête de cette entreprise est un proche de Erdogan, membre de l'AKP, islamiste compatible, nous disait-il. Il y a eu beaucoup de débats autour de la question de savoir si ces combattants étaient aussi sollicités pour des questions religieuses. D'ailleurs, on se souvient d'Emmanuel Macron qui évoquait à propos du Haut-Karabakh des djihadistes.
Oui.
Pas des combattants, des djihadistes. Qu'est-ce qu'on sait concrètement de tout cela? Est-ce qu'effectivement, on a certains combattants qui sont très clairement affiliés à des groupes djihadistes?
Non, je pense que moi je ne connais aucun politologue rigoureux qui dirait qu'il y a 3 500 ou 7 000 djihadistes en Libye à cause d'Erdogan. Ce sont des gens qui sont islamistes. Il y a plusieurs centaines qui sont passés par des groupes transnationaux comme Al-Qaïda ou Daesh, ça c'est sûr. Déjà à la base, si on regarde simplement leur acte les plus répréhensibles contre les Kurdes, ce sont pas des enfants de cœur. Mais techniquement, on n'est pas face à une dynamique djihadiste. Cela dit, il y a quand même des centaines qui correspondent individuellement et même parfois des sous-unités qui se comportent effectivement comme des djihadistes. Mais le fait de dire qu'il y a 10 000 ou 8 000 ou 3 000 djihadistes, ça c'est techniquement faux. Parce qu'il n'y a pas justement cette logique de puisqu'on est en Libye, on va en profiter pour faire des activités extracurriculaires et renforcer Daesh, etc. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune preuve que cela soit vrai.
Pierre Gatineau.
Tout à fait. Non, je ne peux que plus soyez. Et juste pour dire justement, en Libye, c'était la grande crainte, notamment d'imaginer que ces mercenaires syriens, une fois arrivés à Tripoli, se débandent et commencent à partir dans des groupes pour le coup dont la dynamique politique est purement djihadiste. Effectivement, ça arrive pas tellement.
Plus soyons. Je le disais, donc pas seulement la Turquie. On va regarder du côté des Émirats Arabes Unis, qui ont recruté des centaines de Soudanais via une société de sécurité émiratique qui s'appelle Black Shield, qui les ont envoyés de force sur le front libyen sans leur consentement, par l'intermédiaire donc d'une agence de travail de Khartoum qui leur promettait des postes d'agents de sécurité sur des infrastructures pétrolières, et finalement on les a formés au combat et puis on les a envoyés au front.
Ce visa montre que je devais partir aux Émirats comme garde de sécurité. À l'arrivée, on m'a tout pris et on m'a emmené dans un camp militaire. Je me sens trompé.
Ils ont commencé à les former et les choses ont pris une autre tournure au bout d'un mois. Ils leur ont fourni des kalachnikovs et leur ont appris à les assembler et à les désassembler. Ils leur ont même fourni des lance-roquettes. C'est humiliant pour les Soudanais. Pourquoi embrigader nos fils dans une guerre qui nous est étrangère ?
Voilà, donc témoignage recueilli par TV5Monde. Jalal Archaoui, ce type de pratique est totalement, évidemment, interdite, parfaitement condamnable du point de vue international. Par ailleurs, dans ce genre de cas, on n'est quand même pas très très loin du trafic d'êtres humains. On n'est quand même pas très loin de tout ça. Est-ce que ce type d'entreprise, comme Black Shield, donc, en l'occurrence, fait l'objet d'une enquête, pourrait être condamné?
Bah, d'abord, Black Shield, c'est quand même un accident très heureux d'un point de vue journalistique. Ça permet de jeter une lumière sur les pratiques et le rôle des Émirats Arabes Unis en Libye. Mais c'est quand même une bavure qui correspond plus à une maladresse qu'à un modèle qui fonctionnait par ailleurs. C'est un accident qui est très intéressant pour nous parce qu'il dévoile beaucoup d'informations. Mais dans la réalité, c'est pas sous forme de jolies compagnies, que l'on peut identifier clairement avec pignon sur rue et que l'on peut attaquer. Malheureusement, c'est beaucoup plus main à la main, des rapports de plus en plus personnels. D'ailleurs, les Émirats, depuis la déconfiture de Haftar, parlent de plus en plus directement avec les chefs soudanais qui sont justement du côté de Haftar et qui se comportent comme des mercenaires. Les Émirats préparent déjà l'après Haftar en dealant directement avec eux, en les payant directement, en leur parlant, en les incluant dans les réunions. Et évidemment, dans ce schéma-là, il n'y a pas une société que l'on peut attaquer en justice. Ce sont juste des individus avec très peu de traces. C'est pour ça que l'épisode du bouclier noir est si intéressant.
En l'occurrence, il y a plus de 400 victimes qui ont porté plainte auprès de la justice soudanaise.
Oui, tout à fait.
Pierre Gatineau.
Oui, ce qui est intéressant pour les Émirats, c'est que du coup, ça devient vraiment un modus operandi hyper traditionnel pour cet État. C'est-à-dire que c'est un tout petit État, bon, gorgé de dollars, mais qui a très peu de population et qui a une habitude totale de recourir à des prestataires privés étrangers pour assurer des missions de sécurité. Pareil dans tous leurs déploiements régionaux, bien sûr, en premier lieu au Yémen, même avant la Libye. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font...
Pardon, je vous arrête, Pierre Gatineau, et ensuite je vous laisse poursuivre. Mais c'est intéressant, vous dites petit État très riche. On pourrait se demander, au fond, quel est le profil d'un État qui sollicite des mercenaires. Est-ce que c'est effectivement un petit État très riche? Bon, bah, pour la Turquie, ça correspond pas forcément. C'est quand même un grand État avec... est-ce que c'est un régime politique? C'est quoi le profil type, finalement, du pays qui va solliciter des mercenaires?
Pour moi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment une question d'une puissance moyenne qui a une capacité soit financière, soit militaire, de projection de puissance, mais qui veut pas en payer le coût politique. Donc, qui a pas un siège à l'ONU, donc c'est de vouloir jouer dans la cour des grands tout en n'y étant pas officiellement. C'est toujours un peu le double jeu. En l'occurrence, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie, que ce soit les Émirats, pour parler du conflit libyen ou autre, on voit très bien qu'à chaque fois, ce sont des acteurs qui veulent avoir un jeton de présence dans le.
Regardez les États-Unis. C'est pas une puissance moyenne.
Non, mais justement...
Elles sollicitent des mercenaires. Alors, on les appelle contractors. Hein. C'est
ouais,
différent,
mais enfin bon... C'est... Et l'État américain les emploie que sur des... Ils les employaient que sur des théâtres où l'armée américaine était d'abord. C'est-à-dire que c'est pas envoyé out of nowhere des gens sur des théâtres étrangers. C'est d'abord toujours en soutien de leurs propres opérations légalisées, au moins au regard de leurs propres droits. C'est là où justement les Émirats, la Turquie ou la Russie, c'est plus jouer avec les frontières du droit international.
Vous parlez de la Russie justement.
Ça s'est passé ici, il y avait des bancs, des Cosaques sont venus, ils ont fait embrasser aux hommes leur fouet et la croix orthodoxe. Ils leur ont dit qu'ils devenaient aussi des Cosaques et qu'ils partaient garder la frontière en Syrie.
Les gens signent des contrats selon lesquels ils ne doivent rien divulguer à personne. S'il y a des fuites, ils ne reçoivent pas leur salaire. C'est pourquoi tout le monde garde le silence. Le but d'une société militaire privée en soi, c'est quoi ? Faire de l'argent. Ensuite, défendre les intérêts d'un État là où l'État ne peut pas faire usage de son armée régulière. Si tu es enrôlé dans une société militaire privée, tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut.
Voilà, un témoignage lors d'une séquence de recrutement de mercenaires russes pour le groupe Wagner qui avait été recueilli par France 24. Djalel Archaoui, le groupe Wagner, donc société militaire privée russe qui appartient... Pense-t-on, croit-on, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce point-là, à Evgeny Prigojine, qui a aussi probablement un lien très fort. Là aussi, on manque d'informations avec le ministère russe de la Défense. Quelle différence, au fond, Djalel Archaoui, entre le groupe Wagner et puis n'importe quelle entreprise que j'évoquais, américaine, britannique, je prends des entreprises occidentales à dessein.
Wagner est vraiment, pour moi, c'est un cas particulier fascinant. Par exemple, ils ont un groupe qui s'occupe de la désinformation, si vous voulez. Si leurs clients ont besoin de déformer la perception d'un homme politique, ils vont s'en occuper avec plaisir pour vous. Et ils ont réussi quand même à bâtir des modèles différents selon les théâtres. Donc il n'y a par exemple aucune généralité que je pourrais véritablement dériver par rapport à ce groupe qui a été surtout mis sur pied en 2014 dans le contexte ukrainien et qui a tout de suite embrayé à partir de 2015 en Syrie. Là en Afrique par exemple, il travaille d'une manière très très différente à chaque fois. Et même le financement par exemple est celui de l'État russe en Ukraine et en Syrie, mais on ne peut pas dire cela en ce qui concerne la contribution très importante de Wagner dans le théâtre libyen. On ne sait toujours pas
qui paye. On ne sait pas
qui paye. Ils se comportent d'une manière très différente, très dépensière. Ce sont des gens qui sont assez radins. Et puis là, en Libye, ils font venir des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes d'équipements. Ils sont toujours très lents, alors qu'ils ont l'habitude d'avoir cette réputation d'être rapides. Il y a quelque chose de vraiment très différent.
Votre hypothèse, c'est quoi? C'est qu'il y a un autre pays.
Je pense qu'il y a les États du Golfe. Oui. Parce qu'il y a quand même une aisance financière qu'on voit vraiment nulle part, ni en Centrafrique, ni en Syrie, ni en Ukraine.
Pierre Gatineau.
Je suis complètement d'accord sur les méthodes de financement qui changent, notamment en Afrique. On voit très bien qu'à chaque fois que Wagner arrive dans un pays et crée deux sociétés, une société de sécurité et une société d'exploitation des ressources. Donc en fait, c'est des deals qui sont aussi faits sur les ressources, en l'occurrence, je sais pas, diamantaires en Centrafrique, pétrolières dans d'autres pays. Donc il y a effectivement un jeu de financement. Après, pour l'intervention en Libye, moi je pense que dans ce qu'on dit pas là, c'est qu'en fait on voit que des troupes, des hommes. Ce qui est intéressant dans les SMP, notamment Wagner ou
Société militaire privée pour les
sociétés
auditeurs.
Militaires privées russes ou émiraties ou turques, c'est qu'elles montent en compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus juste envoyer un mec avec une Kalachnikov. C'est aussi d'opérer des hélicoptères, c'est aussi d'opérer des drones. Donc on arrive même dans par rapport à votre émission d'hier entre la guerre irrégulière et la guerre à haute intensité, on arrive dans le privé à un niveau de capacité de mener des guerres d'assez haute intensité, tout en restant des opérateurs privés.
Mmh. Oui, typiquement Wagner. Il y a d'ailleurs des pays qui, en réalité, sollicitent des acteurs privés pour gérer un corps d'armée entier, typiquement l'aviation. Je me souviens que c'était l'un des numéros de votre excellente
complètement
monde des espions.
Et c'est ce phénomène de justement on va dire depuis Bob Denard où c'est juste envoyé des mecs, aujourd'hui où c'est vraiment opéré des systèmes complexes, on le voit très bien je trouve en Libye où pour moi il y a une partie assez importante des matériels russes qui sont livrés, qui sont financés effectivement par les Émirats, notamment par un groupe qui s'appelle International Golden Group, qui est très proche de Mohamed Bin Zayed, le prince héritier local. Et ensuite, ces matériels, comme des pantsirs ou autres, qui nécessitent quand même une technicité assez forte pour les opérer, des ingénieurs, des gens pour assurer le maintien en conditions opérationnelles et autres, ces ingénieurs-là, eux, sont mis sur le budget Wagner, en fait. C'est-à-dire que c'est un quasi des deals tripartites en permanence, où Wagner amène... la force de travail, mais avec une force de travail qui effectivement est puisée auprès du ministère russe de la Défense, auprès des groupes russes publics d'armement, mais qui monte en compétence en permanence. C'est-à-dire que c'est plus l'ancien Spetsnaz un peu tatoué et un peu bedonnant. C'est aujourd'hui de l'ingénieur de haute technologie qui est envoyé, non pas sur le contingent russe, mais bien sur le contingent Wagner.
Mais alors, justement, je vais poursuivre un tout petit peu avec vous. Essayons de voir un peu ce paysage et de faire des distinctions, parce que visiblement, si, en vous entendant, je vois bien que c'est pas du tout la même chose quand on parle de la Libye et quand on parle par exemple de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'on a un cas où on sent bien qu'il y a au fond un intérêt politique et que donc il y a une implication forcément à un moment politique, diplomatique, géopolitique du régime russe. Alors que dans l'autre, on pourrait se dire qu'après tout, lorsqu'on arrive et que l'on vend des services militaires contre des concessions minières, au fond, l'État russe n'est pas forcément, je dis, impliqué dans ce travail-là. Est-ce que c'est de la naïveté de ma part? Est-ce qu'au fond, on fait d'abord du business dans ce genre de cas où Moscou est toujours, quelle que soit la situation, y compris dans le cadre d'accords de coopération qui ont été très très nombreux ces dernières années. Wagner, le groupe Wagner a passé beaucoup de contrats avec certains pays, j'en ai noté quelques-uns. Alors la Centrafrique, on en avait beaucoup parlé, mais l'Angola, la Guinée-Bissau, le Soudan, le Mali, la Mauritanie, et je dois en oublier, donc, très nombreux. Est-ce que dans ce genre de cas, Moscou est à la marge ou il est toujours là?
Pour moi, Moscou est toujours là, mais effectivement, il est beaucoup moins à la manœuvre. Moi, ce que je sais, c'est que Wagner a des commerciaux. Il y a des gens avec des cartes de visite marquées Wagner Business Development. Donc,
vous en avez rencontré?
Mais donc du coup, c'est une société en tant que telle. Pour je pense notamment pour les déploiements en Afrique, pour les déploiements en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, c'est effectivement un boulot de société normale avec des commerciaux qui viennent vendre des services et autres. À partir de là, oui, l'État russe reste. Typiquement en Afrique, dans chaque pays où Wagner a une présence, c'est un jeton diplomatique de plus pris par Moscou, en fait.
Kremlin donc, a toujours le droit de regard.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est plus qu'il n'est pas forcément à l'initiative en permanence, mais en fait, si plus Wagner est dans les pays africains, dans plus de pays africains, mieux, enfin plus Moscou a des ficelles, on va dire, pour pouvoir avoir un lien, un nouvel accord de coopération ou autre. Donc c'est en termes de projection de puissance, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça leur coûte rien.
Oui, mais j'entends bien. Mais la question au fond qu'il y a derrière, c'est aussi est-ce que tout cela est planifié par Moscou? Il y a une stratégie, c'est-à-dire on va utiliser effectivement le groupe Wagner parce que ça permet à nous Russes de faire notre grand retour. Parce que c'est vrai que la Russie avait quand même assez largement disparu du continent africain depuis la chute de l'URSS. Est-ce qu'on prévoit les choses ou est-ce qu'au fond c'est juste une opportunité qui s'offre à vous, Jalal Harchemi?
Ce n'est pas de l'opportunisme pur. La direction générale correspond à une réflexion stratégique de la part du Kremlin. Hein, on ne va pas faire n'importe quoi dans toutes les directions, tous les azimuts. Cela dit, il n'y a que quelques points d'inflexion où le Kremlin va dire oui ou non, ou un peu moins ou un peu plus. Mais après, c'est à Wagner de trouver une espèce de viabilité économique et d'improviser dans la marge de manœuvre qui leur a été accordée. Donc voilà, c'est vraiment la direction générale qui est fixée par l'État russe.
Et après,
il fixe sa politique africaine et ensuite, éventuellement,
pour chaque pays. Et c'est pas de l'opportunisme pur. Il y a une logique là-dedans sur le long terme de caractère stratégique.
Pour moi, il y a une logique continentale. Après, pour chaque pays, je pense que c'est aussi à chaque fois l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que quand la Centrafrique se prend la tête avec Paris, que Moscou peut mettre un pied, c'est toujours un peu la même logique. C'est-à-dire qu'il y a une logique de puissance, de retour de puissance, mais qui se fait du coup dans les interstices laissés, notamment par Paris et Washington.
Pierre Gatineau, pour bien comprendre ce phénomène, il faut revenir un petit peu en arrière, faire un tout petit peu d'histoire, voir en particulier les figures pionnières de cette chose-là. Et il y en a un qui s'appelle Tam Spicer, que vous connaissez bien, qui a fondé la première société militaire privée moderne. Il est britannique. Vous êtes allé à Londres, vous l'avez rencontré. Il déteste les journalistes, il n'en rencontre jamais. Vous, il vous a accueilli, vous avez pu échanger avec lui, extrait justement de cette émission qui avait été diffusée sur France Culture cet été, c'est donc Tom Spicer.
J'ai senti, en regardant ce qui s'était passé dans les années 1960-1970, que les soldats de fortune s'étaient fait une sale, vraiment sale réputation. Donc mon idée partait de deux constats. D'une part, des coupes massives dans les budgets des forces armées, et d'autre part, un monde qui devenait de plus en plus dangereux, parce que l'OTAN et le pacte de Varsovie ne s'équilibraient plus. J'ai alors pensé, néanmoins, que les États occidentaux auraient toujours besoin de conduire des opérations militaires pour leur propre défense ou pour la poursuite de leur politique étrangère. Conclusion, une certaine catégorie de capacités dans les forces armées, ce que l'on pourrait appeler le côté passif ou défensif, pouvait être privatisé afin que les armées régulières, elles, puissent se concentrer sur les opérations offensives. Je voulais à la fois me tenir éloigné de ce qui ressemblait à du mercenariat, mais également rendre l'usage des privés dans l'armée acceptable, normal et régulé.
Voilà, Tim Spicer, j'ai dit Tom, c'est Tim Spicer, le pionnier de la guerre privée, extrait donc de ce Monde des espions saison 2, Pierre Gatineau. Vous nous présentez un peu cet homme et vous nous racontez comment il a basculé dans l'entrepreneuriat militaire.
C'est un peu ce qu'il raconte là, c'est-à-dire à l'origine c'est un officier.
Mais il décrit pas précisément, il y a plein de choses, plein d'étapes, l'ex-Yougoslavie, la Papouasie, etc. Il y a plein de choses qui se passent.
Complètement. Donc c'est à la base un officier de l'armée britannique, diplômé des bonnes écoles de l'armée britannique, de la gentry un peu locale, donc tout ce qui fait une carrière habituellement assez honorable dans l'armée britannique, et en fait effectivement il arrive où il est déployé dans plusieurs endroits, et notamment en Yougoslavie dans les années 90, où lui est à l'époque déployé par l'armée britannique dans les contingents de l'OTAN. Et il commence à voir justement des premières sociétés qui viennent pour le compte des États-Unis, pour le compte de plusieurs contingents otaniens, qui viennent effectivement former les troupes locales, qui viennent appuyer en compétences ou faire monter en compétences les armées locales que l'OTAN soutient. Et de l'autre côté, il voit aussi d'ailleurs beaucoup de contingents étrangers. Notamment une partie islamisée, c'était l'époque de la Bosnie en fait. Et donc en fait, il comprend que de plus en plus les opérations vont être comment dire de moins en moins. Si elles sont de plus en plus régaliennes, elles sont de moins en moins étatisées en fait. C'est-à-dire que c'est de plus en plus des jeux de contrats qui permet à des États de soutenir des groupes sans être visible.
Et ça, donc, il le sent dès la Bosnie, parce que nous, on dit toujours que le tournant c'est l'Irak, et effectivement, c'est là où va exploser ce marché-là.
Voilà, c'est ça.
Mais ça commence déjà en Bosnie.
La Bosnie, c'est vraiment en fait, vu que c'est un contexte très particulier, c'est-à-dire que c'est une opération multilatérale avec en fait chaque acteur de chaque branche des opérations multilatérales, en fait, un propre poulain. Donc, ça devient une espèce de jeu. C'est-à-dire que on le sait tous, la poudrière balkanique est déjà assez compliquée, mais en plus, chaque acteur a son propre poulain qui veut soutenir en lui donnant des contrats de formation de sécurité, de formation militaire, de formation d'ingénierie, même d'équipement et autres. Et donc, il voit très bien comment le paradigme est en train de changer. Et effectivement, après, il y a d'abord l'Afghanistan, avant l'Irak d'ailleurs. Mais l'Afghanistan, la première opération otanienne voit l'OTAN passer massivement, dans une culture très américaine, passer massivement des contrats de soutien, mais qui sont pas forcément d'abord au départ des contrats de soldats privés. C'est d'abord des contrats même d'opérer les télécommunications de l'organisation, d'opérer des trucs comme très très stratégiques. Tout ça est totalement privatisé. Et ensuite l'Irak, où l'intervention américaine fait qu'effectivement ils ont un besoin massif de recours à des prestataires privés, parce que même l'armée américaine coûte sinon trop cher. C'est une armée qui coûte très cher à déployer quand même. On l'oublie souvent. Et en plus, je pense qu'il y a un détail dans l'affaire irakienne, c'est le décret Bremer. C'est-à-dire qu'il détruit l'État irakien. Et donc à partir de là, même localement, il n'y a plus aucune colonne vertébrale sécuritaire. Et donc les Américains vont se mettre à passer des contrats avec des sociétés privées occidentales pour reconstruire l'État irakien. Mais alors quand c'est dans la santé ou autre, ça va. Mais il y a aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Ce qu'il faut faire, quoi.
Pour avoir les pièces entre la Bosnie et l'Irak, j'invite les auditeurs à écouter votre émission, parce qu'il y a des moments qui sont quand même très difficiles, justement, des expériences. Je parlais de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y a aussi la Sierra Leone où ça se passe très très mal. Ça, il faudra réécouter. Jalal Archaoui, ce qu'on entend dans ce que dit Tim Spicer, c'est qu'il sent à ce moment-là une forme de désengagement des États en termes de budget, en termes de moyens humains. Effectivement, on est tous en train un peu de relâcher la pression. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. On en parlait hier, quand on regarde les budgets, les moyens, on est en train, au fond, on est dans un moment où le monde se réarme, et du point de vue des budgets, et aussi du point de vue purement humain. Est-ce que ça veut dire qu'en retour, il faut s'attendre à un recul dans les années qui viennent, à un recul progressif de ces sociétés militaires privées ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que là, parmi les diverses utilités que ces groupes ont, il y a cette idée de déni, hein, que ce soit plausible ou pas. C'est quand même toujours intéressant de pouvoir agir d'une manière guerrière, tout en maintenant une espèce de nuage de doute, pour que votre ennemi ne déclenche pas, en réaction à ce que vous venez de faire, une guerre véritable. Et cette zone de gris a vraiment une grande utilité, qui ne va pas s'estomper comme ça d'un seul coup dans les 10 prochaines années. Ce sera toujours utile de pouvoir maintenir le doute, si vous voulez.
Oui, au contraire, plus des pays vont vouloir avoir des logiques de puissance, plus au contraire, on va avoir l'émergence de nouvelles sociétés privées. Il suffit de regarder la Chine. Sur le long de la route de la soie, le grand projet géopolitique qui va de la Chine à l'Europe, que ce soit par la terre ou par la mer, il y a de plus en plus de sociétés privées de sécurité chinoises qui sont créées au Turkménistan, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, ou ensuite si on prend la route maritime à Djibouti, au Soudan, au Sud-Soudan. Enfin, c'est une logique qui permet d'installer sa puissance sans en payer le coût politique.
D'où la nécessité, évidemment, de réguler ce secteur, chose extrêmement difficile. La guerre en Irak, vous l'avez dit, a révélé au grand public le rôle de ces entreprises privées de sécurité. C'est là qu'on a d'ailleurs découvert tout simplement l'existence de Blackwater, cette société américaine devenue le symbole de la privatisation de la guerre, d'une certaine manière, fondée en 97 par un ancien militaire, Eric Prince. Elle s'était tristement illustrée à travers de nombreuses bavures dont ses membres s'étaient rendus coupables. On va justement évoquer cette question de la régulation des entreprises de sécurité privée.
Pourquoi ont-ils besoin de nous? Peut-être parce qu'au fil des années, l'armée américaine a diminué le nombre de ses spécialistes de la préparation au combat. Ou bien parce qu'il y a beaucoup de militaires engagés à l'étranger ou occupés à d'autres tâches. Ou peut-être, tout simplement, ils n'ont pas assez de militaires qui ont une bonne connaissance de ce type de savoir-faire. Of how this stuff
really works. Voilà, témoignage d'un de ces mercenaires de Blackwater. Blackwater qui s'était rendu coupable d'un certain nombre de scandales entre 2005 et 2007. On a recensé plus de 164 violences au cours desquelles des hommes ont tiré les premiers en violation du contrat qui les lie au département d'État. À la suite de ça, on a essayé de reconstruire un petit peu son image. On a changé de nom, on s'appelle maintenant Academy. Et puis on a mis en place un code de conduite international pour ces entreprises dirigée par une association suisse qui s'appelle AICOCA. Bonjour Cyril Magnon Pujot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 2. En 2013, on crée donc cette association internationale du Code de bonne conduite destinée à surveiller et à encadrer l'activité de ces sociétés militaires privées. Vous pouvez nous présenter en quelques mots cet organisme et nous dire le bilan qu'on peut en faire 7 ans plus tard?
Alors, le bilan à tirer est compliqué. Il faut comprendre que la mise en place de cette association qui surveille la bonne application du code de conduite international, c'est le résultat d'un processus d'une dizaine d'années, en fait, initié par les principaux états clients des compagnies de sécurité privée, les entreprises et quelques ONG pour développer un contrôle. Et la finalité, c'est donc la mise en place de cette association particulière, puisqu'elle fait en sorte que ce sont à la fois des états, des entreprises et des ONG qui vont surveiller la bonne application du code de conduite. Aujourd'hui, les résultats sont limités dans le sens où les possibilités d'enquête sur des cas de violation sont limitées, même s'ils sont théoriquement possibles. Le code de conduite, c'est d'abord une vérification a priori et un label pour ces entreprises pour montrer qu'elles sont justement, par rapport à ce qui a été dit par vos intervenants précédemment, différenciées du mercenariat et des soldats contemporains.
Oui, le problème, c'est non seulement que ces entreprises ne sont pas contraintes de se soumettre à ce contrôle, à ce code, mais en plus, en réalité, cet organisme, il abrite en son sein des personnalités qui sont directement liées à ces entreprises. Et autre problème, c'est que toutes les entreprises de sociétés militaires privées n'y appartiennent pas. On parlait par exemple de Wagner, la société russe Wagner, au début, était associée d'ailleurs aux discussions sur la création de ce code international, mais finalement, elle s'en est retirée et aujourd'hui, elle n'est absolument pas représentée. Cyril Magnon-Pujot, si on revient justement un peu en arrière et qu'on essaie de comprendre cet élan régulationniste, il faut comprendre qu'il va y avoir une vraie opposition entre deux groupes très importants. D'abord, le groupe de travail sur les mercenaires du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et l'initiative suisse. C'est comme ça qu'elle est appelée, qui a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères suisse. Mais rapidement, les deux entités vont s'opposer. Vous expliquez ça très bien dans l'un des papiers que j'ai lu pour préparer cette émission. Vous nous expliquez pourquoi est-ce qu'elles s'opposent et au fond, en quoi leurs deux approches sont différentes, Cyril Magnon Pujot.
Oui, tout à fait. En fait, tout ça se passe au milieu des années 2000, 2005, 2007. C'est la mise en place de dispositifs de contrôle des compagnies de sécurité privée, alors que le marché se développe dans les années 90, puis explose dans les années 2000, avec les bavures que l'on sait. Et donc, on voit deux dynamiques différentes. D'un côté, on voit des entreprises de sécurité et les états clients qui cherchent à montrer patte blanche, en quelque sorte, et à faire un peu le tri, pour être honnête, et donc vont essayer de développer une norme, ce qu'on appelle une soft norm, c'est-à-dire un guide de bonne conduite pour montrer qu'elles veulent être contrôlées. Un forum onusien qui, à la même période, se dit que, ayant régulé les mercenaires dans les années 70-80, les mercenaires de la décolonisation, Bob Denard et consorts, puisqu'ils sont interdits formellement dans le droit international depuis les années 70. Aujourd'hui, ce mercenariat, il aurait muté sous les formes des compagnies de sécurité privée, et il faudrait donc, elles aussi, les interdire, ou en tout cas les réguler très fortement. Et donc, ils vont suivre cette approche, qui est un peu une approche inscrite dans la lutte contre la... dans le cadre des luttes pour la décolonisation. Et donc, les mercenaires des années 70, ils vont transposer ce cas-là, finalement, autour des compagnies privées, et maintenir ce cadrage des droits de l'homme, qui s'oppose donc très fortement, très rapidement, à ce que proposent les principaux États clients, donc États-Unis, Royaume-Uni, et les entreprises de sécurité, si elles pensent que ce cadrage, il n'est pas du tout pertinent, et il va être trop restrictif, et il va en fait empêcher les compagnies de sécurité de pouvoir opérer comme elles le font à l'époque, alors très largement, en Irak et en Afghanistan.
Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des raisons de croire qu'on peut encore obtenir des avancées en termes d'encadrement, de régulation de l'activité, ou c'est peine perdue, tout est fait en réalité pour annihiler toute velléité réformatrice?
Alors, il y a toujours une possibilité, il y a toujours un travail sur une convention internationale, donc du côté de l'ONU, donc qui serait contraignante, qui passerait par les États, mais cette action, elle a été effectivement, elle a été très fortement limitée par l'initiative suisse, de facto, en fait, et aujourd'hui, c'est le code de conduite international, donc cette norme qui s'impose, hein, qui est traduite dans une norme ISO aujourd'hui. Il semble difficile de revenir en arrière, dans le sens où cette norme, elle est utilisée, et c'était son objectif, hein, par les principales entreprises du secteur, qui l'imposent en fait en quelque sorte à toutes les autres, hein, sachant que les clients revendiquent cette norme. Il semble donc que ce soit plutôt le chemin qui soit pris. Peut-être que le retour par rapport à ce que disaient vos intervenants, peut-être que le retour à une forme de mercenariat peut-être plus classique, comme on a pu l'observer en Libye ou au Karabakh, amènera une autre mobilisation. Je crois que du côté des entreprises de sécurité, des compagnies de sécurité privées, les logiques sont assez différenciées, et c'est effectivement cette norme internationale qui s'impose.
Alors, la liaison n'est pas très très bonne, mais on vous entend, on vous comprend à peu près. Encore une toute dernière question, et puis ensuite je voudrais faire réagir nos invités. Mais vous parlez de normes ISO. Est-ce que quand même, malgré tout, cette norme ISO, ce code de bonne conduite, il est un tout petit peu respecté. Il représente quand même quelque chose pour les entreprises, les sociétés militaires privées et les personnes qui s'y engagent, ou c'est comme si ça n'existait absolument pas. Cyril Magnon-Pujot, on vous a perdu. Voilà, on vous sentait bien que la ligne se dégradait, ça s'est confirmé. Pierre Gastineau, Jalal Archaoui, réaction peut-être sur cette régulation extrêmement difficile, voire impossible en réalité. Hein.
Je peux vous aider à répondre à votre question. Dans le flou, oui, en fait, c'est assez respecté. Ça dépend quelle société. En fait, par exemple, typiquement les normes ICOCA, enfin ces normes-là, les normes ISO et autres, sont maintenant demandées dans à peu près tous les appels d'offres pour les pays de l'OTAN, pour l'ONU ou autre. Donc en fait, vous avez, par le contrat que vous voulez, une régulation. Maintenant, si vous voulez pas des contrats du département d'État américain ou du département de la défense, du ministère de la défense britannique, mais que vous allez viser des contrats de formation de garde présidentielle au Congo-Brazzaville ou au Turkménistan.
Vous avez absolument pas besoin de ça.
Voilà, mais ça dépend vraiment aussi de quel contrat vous voulez. C'est un peu plus ça, mais si vous voulez aller vers des contrats pour des pays occidentaux, globalement, oui, c'est un peu contraignant quand même.
Oui, on voit au fond que le champ est divisé.
Dernier point, quand vous disiez Wagner s'est retiré, faut jamais oublier ce paradoxe qui est qu'en Russie, les sociétés militaires privées sont interdites.
Oui, c'est ça. J'avais oublié de le dire, vous avez raison. Jalal Archaoui.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est l'utilité de cette illégalité de Wagner en Russie, c'est pour maintenir un rapport de pouvoir qui soit gérable du point de vue du Kremlin. Il y a cette épée de Damoclès qui est constamment maintenue sur les dirigeants de Wagner, et c'est une façon de les forcer à partager l'argent, de rester obéissant, et ainsi de suite. C'est un outil.
Et c'est un moyen pour Poutine d'avoir la main mise sur.
Mais sinon, par rapport à la régulation, je pense qu'effectivement, il y a une division des champs. Il y a un espace où ce sera utile, où effectivement, il y a une attente de la part des clients, et puis il y a un autre espace qui va demeurer. C'est là où il s'agit de tuer des civils, le fait de planter des mines antipersonnelles qui sont strictement en violation de toutes les conventions humanitaires, et ainsi de suite. Ça, c'est un travail que Wagner, par exemple, fait avec beaucoup de plaisir en Libye. Et ça, évidemment, c'est vraiment plusieurs couches de clandestinité et d'illégalité. Et donc, c'est absolument ridicule d'envisager une régulation dans ce contexte-là. Il s'agit de commettre des crimes de guerre, hein, souvent.
Et dans la partie légale, Pierre Gastineau, vous parliez tout à l'heure de la Chine. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, à terme, la Chine prenne l'avantage sur ce secteur industriel-là Je mets les guillemets, évidemment, mais il y a effectivement une partie légale, on a compris, hein, il y a au fond deux mondes. Pékin pourrait prendre l'avantage sur les Américains, les Britanniques, qui pourtant, dans les années 2000, étaient vraiment leaders sur ce marché. Si on peut parler de marché, hein, mais...
Si, c'est un marché.
Oui, c'est un marché.
Alors oui, ils ont une grande force de travail et des intérêts géostratégiques à pousser, donc oui. Après, ce que je voulais réagir à ce que vous disiez, c'est aussi qu'il y a tout un espace dont on n'a pas parlé, qui est dans le cyberespace, où la logique de privatisation par les États des opérateurs privés, de fonctions régaliennes comme le renseignement ou les opérations de cyberattaque ou autres, est totalement répandue en fait. Donc je pense qu'il y aura un besoin de réguler internationalement beaucoup plus précocement que sur les théâtres d'opérations physiques.
Alors on a fait un peu exprès parce que le cyberespace, on va en parler demain. Vous voyez, les choses sont bien faites hein, dans la culture monde. Donc rendez-vous demain pour le cyberespace. Merci beaucoup en tout cas à Cyril Magnon-Pujol qui est avec nous. Je n'ai pas dit, j'ai dit que vous étiez maître de conférence à l'université Lyon 2, mais que vous avez aussi réalisé une thèse sur les questions qu'on a évoquées. Je vais dire le titre entier de la thèse. Normer la violence privée, point d'interrogation, la construction sociale d'un contrôle des compagnies de sécurité privée. Merci beaucoup à vous Cyril Magnon-Pujol.
Beware. Pilot fell quite big time as the bomb sailed through the air. Well, the dance and sang when the bang went bang, but the light popped out when the smoke began to clear. It was positively queer. All clear will the siren.
Et merci beaucoup à nos deux invités qui étaient avec nous ici en plateau. Jalel Archaoui, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales des Pays-Bas. Le nom exact de votre institut, Jamel?
Kliender.
Ah, merci beaucoup.
Florian.
Et merci infiniment aussi à vous, Pierre Gastineau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Intelligence Online et aussi co-auteur avec Philippe Vasset de Conversations secrètes, le monde des espions, coédition Fayard France Culture, qui est en fait la déclinaison en livre de la saison du monde des espions, saison 1 de l'année dernière.
Exactement.
On attend pour donc la saison 2, elle aussi. On aura bientôt son livre, j'imagine. Merci infiniment à tous les deux.
Merci à vous.
Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Il y a quelques jours des élections américaines. Comment évaluer l'influence des États-Unis dans le monde dans le cadre de leur rivalité avec la Chine?
Ben, souvenez-vous, le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé à Genève a été prévenu le 31 décembre de l'an dernier qu'une épidémie virale partie de Wuhan s'étendait dans la province chinoise du Hubei. Mais cette alerte était lancée par l'île chinoise rebelle de Taïwan, que Pékin a fait exclure de l'OMS. Et l'information n'a pas été transmise. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 30 janvier, que l'organisation a fini par lancer une « alerte d'urgence de santé publique de portée internationale », formule alambiquée, pour éviter d'utiliser celle de « pandémie » qui aurait heurté les sensibilités à Pékin. Alors oui, la Chine populaire a progressivement acquis une grande influence dans plusieurs agences internationales où on évite de contrarier cette puissance décidément bien susceptible. Est-ce une raison pour que les autres États s'en détournent et renoncent à ces instruments du multilatéralisme? Il y a bien des victoires à mettre au compte de l'OMS, comme par exemple l'éradication de la variole. Mais la logique trumpienne, celle de l'America First, tente de persuader les Américains que les États-Unis sont une île qui pourrait renoncer à assumer des responsabilités mondiales tout en se protégeant des périls qui menacent les autres. Mais enfin, le réchauffement climatique qui a fait flamber les forêts californiennes ou le Covid qui a déjà coûté la vie à 230 000 Américains, ces défis sont mondiaux et les réponses ne peuvent être purement nationales. Donald Trump a annoncé que son pays allait progressivement quitter l'OMS, retrait qui deviendrait effectif le 6 juillet de l'an prochain s'il est réélu. Les États-Unis, avec 400 millions de dollars annuels, sont les plus gros contributeurs au budget de cette organisation. Trump a déjà claqué la porte de l'UNESCO, celle du Conseil des droits de l'homme. La prochaine fois, il quitterait quelle autre organisation internationale? L'OMC?
Et Brice, donc, dans un article qui paraîtra en novembre dans la revue The Atlantic, Anne Applebaum met en garde contre cette politique de la chaise vide.
Oui, Xi Jinping, écrit-elle, n'a jamais caché la volonté de son pays d'obtenir une réécriture des normes et des règles internationales conformes aux intérêts chinois. Il a encouragé ses diplomates à prendre une part dirigeante dans la réforme du système de gouvernance mondiale. Il veut une mondialisation nouvelle à la chinoise. Et il est soutenu dans cette entreprise par la Russie et l'Iran, ainsi que d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais il a aussi bénéficié de l'assistance objective de l'administration Trump. Je cite Anne Applebaum. « La rhétorique anti-chinoise du leadership républicain a dissimulé une vérité. Une partie de la diplomatie américaine, et pas seulement celle qui est affiliée à Trump, a abandonné le langage de la démocratie et des droits de l'homme, qui était autrefois celui dont usaient les États-Unis à l'ONU. Elle a laissé tomber des institutions internationales que le reste du monde continue de respecter, sans offrir d'alternative. » Oui, pendant ce temps, l'influence chinoise progresse. La Chine a obtenu la direction de la FAO, de l'Organisation civile internationale de l'aviation, de l'Union internationale des télécommunications, qui est en charge de l'attribution des fréquences radio et de la coordination des satellites de télécommunications. Elle utilise, la Chine, ses énormes moyens financiers à travers des investissements, des prêts ou de la corruption pour avancer ses pions et étendre son influence et se créer des amis. Le projet d'ailleurs des nouvelles routes de la soie s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Aux Nations Unies, Pékin impose ses formules. On y parle de moins en moins de droits de l'homme et de plus en plus de respect mutuel entre les États. Une manière d'interdire toute critique des violations massives des droits humains élémentaires qui ont lieu en particulier au Tibet ou à l'encontre des Ouïghours musulmans du Xinjiang. Désormais, les Ouïghours, oui, qui parviennent à fuir la Chine, ne bénéficient plus du droit d'asile dans les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont font partie la Russie, l'Iran, l'Afghanistan ou la Biélorussie. Mais même la Turquie, islamisée par Erdogan, un pays qui jusqu'à récemment a exprimé son soutien aux Ouïghours en raison de leurs affinités, ils parlent une langue turcique, la Turquie a entrepris désormais de les arrêter et de les déporter, les Ouïghours. Belle façon pour Erdogan de défendre les musulmans à travers le monde. Certes, poursuit Anne Applebaum, nous savons tous que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas d'une grande impartialité. Il a accueilli dans ses rangs des États qui ne respectent pas les droits de l'homme, comme Cuba, l'Arabie Saoudite ou le Venezuela. Il n'empêche qu'il conserve une certaine capacité d'influence dans un sens positif. En tout cas, ce n'est pas en claquant la porte, comme l'a fait Mike Pompeo, qu'on fera avancer la cause des droits de l'homme. Mais Trump s'intéresse-t-il à cette cause, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs, qu'ils soient démocrates comme Bill Clinton ou républicains comme Ronald Reagan ? Non, écrit Anne Applebaum, elle dit « Il n'apprécie pas Trump le langage des droits universels, de la justice neutre et non partisane, parce qu'il redoute à titre personnel le verdict d'une telle justice. Il préfère la compagnie des dictateurs parce qu'il admire la puissance et la cruauté. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France. On se retrouve demain, cher Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.